RTU.
Le débat du jour, Jean-François Cadet.
La conférence d'Annapolis sera-t-elle une vraie chance pour la paix? George Bush a-t-il les moyens d'amener Mahmoud Abbas et Ehud Olmert aux concessions qui permettront de progresser significativement sur le chemin d'un règlement définitif et global du conflit israélo-palestinien? Un État palestinien peut-il rapidement sortir des limbes? De quoi faut-il parler pour que les choses avancent? A-t-on eu raison de ne pas inviter le Hamas ou l'absence du mouvement islamiste qui contrôle Gaza réduit-elle par avance à néant les efforts pour la paix? Bref, les conditions sont-elles réunies pour faire de cette réunion une rampe de lancement pour la paix, pour reprendre l'expression du conseiller de Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudaina? Pour en débattre avec nous, deux invités qui se battent depuis longtemps en faveur de la paix au Proche-Orient, mais qui ne portent pas le même regard sur cette conférence d'Annapolis. Michel Siboni, bonsoir. Vous êtes la coprésidente de l'UJFP. L'UJFP étant l'Union juive française pour la paix. Face à vous, Marc Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole pour la France du mouvement La Paix Maintenant. Alors samedi, il y a eu une manifestation organisée par La Paix Maintenant devant le domicile d'Ehud Olmert en Israël, avant qu'il ne s'envole pour les États-Unis. Il y avait des gens de votre mouvement, il y avait des députés du Parti Travailliste et du Meretz, des gens qui soutiennent de longue date l'initiative de Genève. Et sur les pancartes, on pouvait lire « C'est le bon moment ». Choisissez la paix. Franchement, Marc Lefebvre, vous croyez vraiment que c'est le bon moment?
C'est le moment. Tout a échoué jusqu'à maintenant. Depuis la conférence de Madrid de 91, il y a 16 ans, tout est échec. Échec de la deuxième intifada, échec de la résistance des colons israéliens au retrait de Gaza, échec politique de ce retrait unilatéral dont on ne voit que les désavantages des deux côtés, échec du Hamas qui est obligé de réprimer par la violence des manifestations démocratiques à Gaza, de partisans du Fatah, échec des experts qui nous disaient encore avant l'été que cet été sera l'été de la guerre. Donc ce sommet s'est préparé dans une atmosphère de pessimisme général.
Mmh. Alors justement, vous pensez que c'est parce qu'on est au bord du gouffre qu'on peut trouver un accord ?
Quand on est au bord du gouffre, effectivement, il y a le choix. Soit on saute, soit on se retient à la dernière minute. Alors, est-ce qu'on est vraiment au bord du gouffre? On l'a déjà pressenti plusieurs fois. Chaque fois, on est allé vers un échec et vers une aggravation de la tension derrière une phase relative optimiste. Donc, c'est vrai que c'est un réflexe naturel de la population sur place, compte tenu de tous les espoirs déçus, d'être pessimiste. Mais encore une fois, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Nous n'avons pas le choix. Ou plutôt, nous avons le choix, puisque le choix de la paix, le choix d'une négociation sérieuse sur tous les problèmes, est le seul risque qui n'a jamais été pris jusqu'à maintenant.
Alors vous, Michel Siboni, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne, puisque il y a quelques jours, l'UJFP mettait en garde, je vous cite, contre cette conférence de paix qui est un leurre. Alors pourquoi un leurre ?
D'abord, c'est pas une conférence de paix. Elle a commencé par tenter de s'appeler conférence, et puis très vite, les Américains eux-mêmes ont dû baisser leurs attentes de cette conférence avec beaucoup d'inquiétude. Ils l'ont rebaptisé meeting, rencontre. Il s'agit d'une rencontre au sommet et non pas d'une conférence de paix, qui quand même, conférence de paix concernant le Moyen-Orient, elle pourrait au moins avoir le mérite d'être sous une égide internationale et non pas sous l'égide d'un gouvernement en fin de mandat, qui est le gouvernement Bush, qui a beaucoup de problèmes au Moyen-Orient et qui tente peut-être de redorer son blason avec cette rencontre.
Mais alors pourquoi un leurre? Parce que c'est un mot très fort, ça veut dire qu'on essaie de tromper les gens.
D'abord parce qu'effectivement, il faut trouver des solutions. Mais alors pour trouver des solutions, comment fait-on? Il faudrait peut-être s'attacher au cœur du problème, à ce qui constitue le nœud du conflit israélo-palestinien. Or, il y a un interdit qui pèse sur cette rencontre. On ne parlera pas des frontières, on ne parlera pas de la colonisation, on ne parlera pas du statut de Jérusalem, on ne parlera pas des réfugiés. Il y a un deuxième interdit posé par... Alors, Olmert, prenons les représentants israéliens. Olmert serine depuis 15 jours, tous les jours à la télévision israélienne, ne rien attendre de cette rencontre, ne rien attendre de cette rencontre. Tzipi Livni, elle a dit il y a 3 jours dans Haaretz, et c'est une déclaration qui a été rapportée, si nous engageons sur un calendrier, nous nous planterons un couteau dans le dos.
Tzipi Livni qui est, rappelons-le pour tout le monde, la chef de la diplomatie israélienne.
Donc, pas de contenu, pas de calendrier, regardons qu'il n'est pas invité quand même.
Alors attendez, on va y revenir, mais je voudrais que Marc Lefebvre vous réponde, parce que si effectivement, si on entend Michel Siboni, on a l'impression qu'on ne va pas parler du sujet qui fâche, autrement dit, Marc Lefebvre, que c'est une réunion pour rien.
Que c'est pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas, on ne m'a pas invité à participer aux réunions de travail dernières sur la formule définitive qui sera annoncée lors de cette réunion. Il est évident que si on ne donne pas la voie, si on n'ouvre pas la voie vers une solution aux problèmes qui sont le cœur du conflit, comme l'occupation, les frontières définitives et le partage de Jérusalem, et le fait qu'il n'y aura pas de droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est sûr que si on ne traite pas ces questions-là, ou si en tout cas on n'annonce pas qu'on va traiter ces questions-là, ça sera un coup d'épée dans l'eau.
Mais quand elle nous dit, Michel Siboni, que tout ça finalement c'est une opération de communication pour la présidence Bush.
Non, je pense que malgré tout qu'il y a quelque chose de très important. Michel Siboni a dit que ce n'était pas sous une égide internationale. Si, c'est la première fois que tous les pays arabes vont assister et donnent quelque part leur garantie et leur appui à cette initiative.
Mais pas forcément avec des délégations de plus haut niveau.
Écoutez, prenons ce que nous avons. Tous les pays arabes sont là, y compris, ce qui est très important, la Syrie, qui ne se contente pas de déléguer son ambassadeur, mais qui fait venir un vice-ministre des Affaires étrangères. Donc ça, c'est très important. C'est très important que la continuation de ce processus, et nous espérons qu'il y ait une continuation, se fasse avec, sous l'égide de tous les pays arabes qui vont endosser, comme on dit en anglais, cette initiative.
C'est vrai que cette fois, tout le monde sera là, Michel Siboni. Est-ce que vous n'en attendez pas un peu trop? Est-ce que ça ne peut pas être le début de commencement, de départ de quelque chose de sérieux?
Écoutez, il y a quelque chose qui devrait nous inquiéter tous. Comment se fait-il que l'Arabie Saoudite, qui est quand même l'allié principal des États-Unis, est attendue jusqu'à la dernière seconde pour accepter du bout des lèvres cette invitation très mal à l'aise, en envoyant effectivement, comme vous dites, le troisième degré de la représentation internationale, c'est-à-dire ni président ni vice-président, mais ministre des Affaires étrangères.
Ça veut dire qu'il faut plaisir aux Américains, c'est tout ?
Écoutez, toute la Ligue arabe va être représentée en choisissant effectivement le degré d'importance de cette chose-là. Vous pensez bien que pour le monde arabe, et ça a été écrit dans la presse arabe, il s'agit aussi de ne pas démontrer que la normalisation se ferait avant la paix. La normaliser les relations avec Israël, ça devrait se faire dans la conception du monde arabe après la paix, ou à partir d'une négociation, pas avant la paix. Donc il y a une tentative de pression sur le monde arabe dont on peut imaginer la force.
Mais ça fait partie du jeu diplomatique, normal.
Évidemment.
Non,
cela dit, on peut supposer qu'il y a inquiétude du monde arabe, mais que me disait tout à l'heure un journaliste palestinien d'Israël qui s'appelle Hicham Nafa, que j'interrogeais sur cette question. Il me disait, la Ligue arabe y va, mais le plan de l'Arabie saoudite, le plan de paix, la proposition de paix globale de l'Arabie saoudite n'est pas mis sur la table. Alors à quoi ça sert cette présence-là ?
Marc Lefebvre, au-delà de... On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent des gens qui y étaient à cette conférence. On va quand même dire un mot des absents. Le Hamas n'a pas été invité, le djihad islamique n'a pas été invité. Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui faire la paix avec les Palestiniens lorsqu'on est israélien sans discuter avec ceux qui finalement contestent aujourd'hui l'idée même du processus de paix et qui ne reconnaissent pas Israël?
Moi je pense d'abord aux populations. Je trouve toujours un petit peu gênant que quand on est à distance, on fasse du jusqu'au boutisme et qu'on donne des leçons et qu'on passe toute son énergie et toute sa capacité d'analyse à montrer ce qui ne va pas.
Mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut faire une réunion sur la paix sans inviter le Hamas?
On n'invite pas les colons israéliens irrédentistes.
Mais les colons, on peut dire à la limite qu'ils sont représentés par leur premier ministre israélien démocratiquement élu en Israël.
On n'invite pas toute une partie de la population, tout un secteur politique israélien refuse de façon véhémente cette conférence d'Annapolis, de la même façon que chez les Palestiniens. Chacun est également réparti, les extrémistes sont également répartis des deux côtés.
Mais c'est bien de ne pas les inviter?
Je pense que dans un premier temps, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. pour faire la démonstration politique aux populations qu'on a intérêt à aller vers cette voie-là et qu'on y gagnera plus au niveau de l'amélioration de ce quotidien et d'un espoir de créer deux États pour deux peuples, qu'on y gagnera plus qu'on y perdra. Donc on avance avec ceux qui sont prêts à avancer.
Michel Siboni.
Je suis ravi de constater que nous partageons le même souci des populations. Le Hamas n'a pas été invité avant de parler de la non-invitation du Hamas.
Je crois qu'il faut leur refuser de venir de toute façon.
Je crois qu'il faut parler d'abord du boycott du Hamas par l'ensemble de la communauté internationale et surtout constater à quoi il a servi. Qu'est-ce qu'il a apporté ce boycott international du résultat des élections démocratique palestinienne. Il a apporté en fait le renforcement de l'aile dure du Hamas. Donc ça c'est d'abord au niveau de la méthode, je dirais, qu'il y a une prudence et une réflexion à mener sur ce type de méthode qui
consiste
à
ostraciser. Ça veut dire qu'on peut discuter avec les gens du Hamas ?
Je pense qu'il aurait fallu discuter avec les gens du Hamas, mais au-delà du Hamas. Cette conférence, cette rencontre n'a invité que la Cisjordanie. Elle a exclu du peuple palestinien littéralement 1,5 million de personnes à Gaza, qu'on a étiquetées, parce que les étiquettes ont été distribuées dès le début de l'organisation de cette rencontre. Il y avait les modérés et les extrémistes, nouvelle catégorisation du droit international. On a étiqueté Gaza, 1,5 million de personnes, entité hostile. Vous savez ce que ça veut dire, entité hostile ? C'est même pas de l'humanité, ça veut dire alien. Ça veut dire qu'on a permis on est en train d'ouvrir une soi-disant conférence de paix en affamant des gens à qui on ne reconnaît ni le droit.
Ça veut dire qui ?
Pardon ?
Quand vous dites on est en train, ça veut dire qui ? On.
Écoutez,
ça veut dire
ça
Israël,
veut dire dans la
ça veut dire les Américains, ça veut dire la communauté internationale.
Ça veut dire l'organisation de cette rencontre-là avec la complicité écrasante de la communauté internationale, à l'exception d'un gouvernement scandinave, je crois, je ne me rappelle plus lequel.
Marc Lefebvre.
Mahmoud Abbas a essayé de créer un gouvernement d'union nationale. Ça s'est terminé en quasi-guerre civile. C'est quand même pas notre faute. C'est quand même pas à nous de faire la politique palestinienne à la place des Palestiniens, comme ce n'est pas aux Palestiniens de faire la politique israélienne à leur place. Donc, c'est un constat. Je veux dire, le fait que le Hamas soit hors du jeu, c'est le Hamas lui-même qui s'est mis hors du jeu. Donc, je vois pas, c'est des questions, à mon avis, c'est des questions un peu philosophiques et c'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est effectivement que cette conférence soit le début d'un processus clair, limité dans le temps, et où ce que chaque population sait pertinemment au fond d'elle-même. Chacun sait au fond de soi quelles sont les conditions pour la paix. Ce sont les conditions qui ont été établies dans les paramètres Clinton, ce sont les conditions qui ont été établies dans le plan de Genève. Tout le monde sait qu'il n'y aura la paix que si on arrête la colonisation et qu'on se retire des colonies, s'il y a un principe de retour aux frontières des 67 moyennant des échanges de territoire, si une solution équitable est donnée et des compensations sont données aux réfugiés palestiniens, si Jérusalem devient une capitale pour les deux États, Jérusalem est déjà de facto divisée.
Donc ça veut dire que le sommet de Napoli serait une réussite pour vous si les conditions étaient posées dans ces termes-là.
Bien sûr.
Michel Siboni.
Il faut aussi regarder la réalité. Jérusalem est divisée, dites-vous. Jérusalem est déjà très, 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 très largement annexée au grand Jérusalem voulu par les Israéliens, dans le silence international. Le territoire palestinien est morcelé à l'aide de murs, dans le silence international.
Ça veut dire que les gages donnés par le gouvernement Olmert n'incitent pas particulièrement à l'optimisme ce soir. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Nous sommes encore une fois dans des réunions offshore, comme je les appelle, sans aucun contact avec la réalité. On ne peut pas laisser la colonisation avancer, c'est ce que disait Gideon Levy sur le terrain tous les jours. Elle n'a jamais été gelée.
Les promesses des deux côtés ont été difficilement tenues, donc on ne peut pas se contenter de mettre en exergue les promesses non tenues d'un côté. Les promesses ont été non tenues des deux côtés.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir, Michel Siboni, coprésidente de l'Union juive française pour la paix, Marc Lefebvre, porte-parole pour la France du mouvement La Paix Maintenant. Merci à tous les deux. Bonsoir.